Suivez Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable problème de santé publique pour les femmes en Afrique, c'est l'anémie. Un taux d'hémoglobine insuffisant avec en toile de fond, souvent, un manque de fer. Mais nous le verrons dans cette émission Questions de femmes, il existe plusieurs sortes d'anémie. Cette maladie qui concerne donc les globules rouges peut avoir plusieurs explications et provoquer des symptômes variés. D'où l'importance de reconnaître les signes qui doivent alerter, et tout particulièrement la fatigue, avant que l'anémie ne devienne sévère et puisse entraîner de graves malaises cardiaques ou pulmonaires. D'où l'importance aussi de dépister l'anémie, d'en comprendre l'origine pour traiter, modifier certaines habitudes, proposer si besoin une supplémentation en fer pour traiter cette carence. Sensibiliser sur l'anémie, c'est aussi informer, lutter contre certaines croyances ou pratiques, valoriser une alimentation équilibrée. Et comme chaque vendredi, vous avez la parole pour poser toutes les questions à une spécialiste. Notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 71 18 46 41. Quels sont les symptômes de l'anémie? Quels sont les aliments à privilégier ou à éviter pour les personnes anémiées? On vous retrouve au Sénégal, professeur Awa Oumar Touré, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes hématologue au laboratoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, université au sein de laquelle vous êtes enseignante en hématologie. Et vous vous trouvez en ce moment, professeur Awa Oumar Touré, dans les studios de RFI en full day et mandinquant, dont on remercie toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Alors, il y a des maladies qui peuvent provoquer l'anémie, tout comme certains déséquilibres alimentaires. On va parler dans quelques instants des causes de cette maladie, hein, le taux d'hémoglobine insuffisant. Mais professeur Awa Oumar Touré, si l'on s'intéresse à la fréquence de ce problème majeur de santé, qu'est-ce qu'on peut dire pour votre pays et même pour la région de l'Afrique subsaharienne?
La fréquence de l'anémie tourne autour de 50 à 70 %. L'enquête de démographie a montré une prévalence chez la femme de 71 %. En Afrique, 40 à 50 % contre 25 % dans le monde.
Donc c'est nettement supérieur. Il y a des éléments qui permettent d'expliquer pourquoi l'Afrique est autant impactée par ce problème de l'anémie?
Il y a les étiologies spécifiques à l'anémie qui sont liées au niveau de développement socio-économique. C'est les carences, la disponibilité en médicaments pour traiter d'autres étiologies comme la drépanocytose qui nous sont spécifiques et les infections et inflammations chroniques.
Et est-ce qu'il y a justement, tout à l'heure, vous parliez du genre, du sexe, des populations davantage concernées par l'anémie?
La femme enceinte et les enfants.
D'après l'OMS, donc, des chiffres assez spectaculaires, est-ce qu'il y aurait, pour les femmes, bien sûr, un facteur auquel on pense forcément sur les menstruations ainsi que les besoins spécifiques liés à la maternité?
Chez la femme enceinte, effectivement, il y a déjà un terrain particulier de petites carences liées aux menstruations et au type d'alimentation. Si en plus elle tombe enceinte, l'enfant prend chez la maman tout ce qu'ils ont il aura besoin en fer et ça peut augmenter la carence en fer si on ne fait rien.
Alors en termes de signes, ces fameux signes qui doivent alerter, même de signal d'alarme, quels sont les changements qu'on peut observer qui doivent pousser à consulter pour dépister l'anémie, donc vérifier le taux d'hémoglobine?
La fatigue, ça ne trompe pas. La personne se sent fatiguée plus souvent que d'habitude et pour des activités moins importantes, de moins en moins importantes. Ça, c'est le premier signe. Ensuite, la personne s'essouffle et la personne commence à parler de palpitations, c'est-à-dire de tachycardie, en dehors du fait que quand on est clair, on devient de plus en plus clair.
C'est-à-dire une pâleur au niveau du visage.
Exact.
Et si jamais on a une carnation foncée, comment justement repérer cette pâleur? Parce que là, ce n'est pas évident.
Il faut aller au niveau des muqueuses, la conjonctive, tirer l'œil et regarder, c'est tout blanc. Ou regarder à l'intérieur de la bouche, la muqueuse buccale est blanche également.
Alors l'examen approprié, le médecin il doit mettre quoi sur l'ordonnance pour le dépistage de l'anémie?
l'hémogramme. Il doit mettre, faire l'hémogramme pour dépister l'anémie.
Chez les jeunes femmes, est-ce que dans un pays comme le Sénégal, cet hémogramme est pris en charge parce que ça coûte forcément cher pour le porte-monnaie de chacune, ou est-ce que c'est quelque chose que les patientes doivent payer elles-mêmes?
Les patients qui sont dans le système étatique sont pris en charge pour 80%. Ceux qui sont dans l'informel doivent se prendre en charge entièrement, à moins qu'ils aient un système d'assurance ou de mutuelle.
Et l'anémie est diagnostiquée par rapport à ce taux d'hémoglobine. C'est quoi les critères, les chiffres qui vont justement dire là, il y a un problème?
Chez la femme, le seuil, c'est 12 grammes par décilitre. Chez l'homme, c'est 13. Chez l'enfant, c'est 11-12 grammes par décilitre.
Alors, on a parlé des symptômes, on a parlé du dépistage. Maintenant, le diagnostic, parce qu'évidemment, il peut y avoir plusieurs causes à cette carence. Professeur Awaou Martouré, il n'y a pas une seule explication. On va peut-être commencer d'abord par ce qu'on a évoqué très rapidement, à savoir les menstruations.
Les menstruations, dans un contexte d'alimentation normale, ce que nous perdons ne doit pas créer une anémie. Parce que nous avons un cycle, le fer tourne dans notre organisme et ça permet de maintenir constant le taux d'hémoglobine malgré les pertes. En dehors de cela, si ça se prolonge en durée, si ça augmente en quantité, la femme devient vulnérable et peut faire facilement une anémie.
Alors l'autre facteur, c'est la carence en fer. Comment l'expliquer, cette carence en fer?
Le fer rentre, fait tout un tour dans notre organisme. Quand il y en a trop, il est stocké, sinon le reste sort. Pour qu'on en manque, soit parce qu'on n'en a pas assez pris, et c'est de moins en moins visible, sauf dans les populations très vulnérables, ou surtout, et ça c'est universel, dans tous les pays du monde, on en perd par de petits saignements liés à des menstrues prolongées pour les femmes, à des ulcères, à des inflammations chroniques, ou bien simplement à la tumeur, la maladie du siècle, à un cancer.
Et il y a des maladies qui provoquent aussi une anémie. On n'y pense pas forcément, des maladies d'ailleurs très très différentes les unes des autres.
Tout à fait. Donc les maladies qui provoquent une anémie, il y en a à foison. C'est pour ça qu'il faut toujours, quand vous avez posé votre diagnostic de l'anémie, classer l'anémie qui vous permet d'avoir un raisonnement vers les différentes causes d'anémie. Les anémies par carence, les anémies par insuffisance d'apport et les anémies associées aux autres pathologies. Les maladies inflammatoires chroniques, les maladies auto-immunes, les cancers, les infections. Donc c'est un raisonnement à avoir en fonction des résultats que vous obtenez.
Et en contexte tropical, il faut parler de deux grandes maladies. Il s'agit du paludisme, une infection, et la drépanocytose, une maladie génétique.
Parfaitement.
Il faut aussi souligner cette vulnérabilité des enfants. Est-ce que vous pourriez dire, professeur Awaou Martouré, que quand un enfant est anémié, eh bien, son pronostic est beaucoup plus mis en cause, c'est-à-dire c'est beaucoup plus dangereux pour lui?
L'enfant est en construction sur tous les plans, au niveau intellectuel, au niveau du métabolisme, c'est-à-dire ses muscles grandissent, ses os grandissent. Cet enfant a besoin d'oxygéner ses tissus pour les faire pousser. Donc cet enfant devient vulnérable sur le plan physique et devient vulnérable sur le plan intellectuel. D'ailleurs, le premier signe qui alerte la mère souvent, c'est la baisse de l'activité ludique chez l'enfant et la baisse des performances scolaires.
Alors tout de suite, on va écouter notre premier témoignage. C'est le moment de notre palabre au féminin recueilli à Brétigny-sur-Orge en région parisienne. Elles sont trois autour du micro de Charlie Dupiot aujourd'hui. Mariam, 32 ans, Blandine, 45 ans, José, 63 ans, et c'est Mariam qui entame la discussion.
Alors moi, l'anémie, c'est quelque chose qui me touche beaucoup durant mes grossesses. Mes symptômes au moment où j'étais anémie, c'était la fatigue. Des fois, j'avais un peu les coups de vertige, les choses comme ça. Donc, on me disait de prendre deux gélules, parce qu'il y a soit une, soit deux. Et moi, on me disait de prendre deux gélules.
C'est du fer?
Ouais, voilà, on me donne du fer. Mais bon, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que quand je vais aux toilettes, après, mes selles sont marron. Mais j'ai eu de la chance, j'ai pas été transfusée, parce que je sais qu'il y en a certaines, elles sont transfusées tellement que c'est sévère, sévère. Mais moi, j'ai pas ce côté-là. Et en fait, je prenais deux gélules et des fois, je buvais beaucoup de Bissap. Parce que ma grand-sœur m'a dit, bois du Bissap, ça va calmer ton anémie. Et depuis, bah, c'est ce que je faisais. Enfin, tout le long de ma grossesse, quand je vois que je suis un peu anémie, je prends du Bissap.
Moi, ce que je pourrais dire au fait de l'anémie, c'est que quand j'étais grosse, au fait, je sentais des fatigues. Je savais pas la provenance et tout quand je suis partie. C'est comme ça qu'on m'a dit que j'avais pas trop de fer et tout, qu'il fallait prendre justement, on m'avait prescrit le tardiféran.
Et ça t'avait fatiguée quand t'avais l'anémie?
Très fatiguée, très fatiguée. Je n'arrivais même pas. En fait, quand j'ai eu la grossesse, la deuxième souvent, surtout, j'ai fait du premier mois jusqu'au huitième mois, j'étais couchée. C'est au neuvième mois de l'accouchement que voilà, j'ai tout repris. Et j'ai eu un bébé, vraiment une petite crevette. Hein, et quand elle est sortie du ventre, je vous dis, elle mangeait. Donc c'était pour tout récupérer et
ouais,
tout.
Ouais, ouais. Elle avait faim, ça se comprend.
Donc c'est un peu ça.
Oui, moi, je suis connue une baisse de fer vers mes 45 ans. Je suis venue comme ça et j'ai été soignée aussi avec des tardiférons. Donc je connais un peu les effets. Quand on est anémique, on est fatigué, on est dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit parce qu'on est absorbé par la fatigue. Même s'occuper de soi-même, c'est un peu compliqué.
Et là, vous n'êtes plus anémie?
Non, je ne suis plus anémie parce que je prends soin. D'ailleurs, quand j'ai fait mon bilan en 2023, on m'a dit que j'avais l'excès de fer parce que je me suis mise à fond à manger tout ce qui est pro-fer. Les légumes, tout. J'en ai abusé et puis on m'a dit, là, il faut arrêter parce que les épinards, j'ai mangé sous toutes les formes. Il ne faut pas les cuire. Quand vous le faites bouillir longtemps, ça perd ses valeurs. Mais quand vous le blanchissez, ça garde toutes ses valeurs et nutritives et ça vous donne tout ce que vous voulez.
Tous les bienfaits
du fer. C'est très riche et moi, j'en ai abusé pour avoir beaucoup plus de fer. J'en ai vraiment profité, parce que je ne voulais pas être là à prendre le médicament tout le temps. Je n'ai pas voulu ça, donc je me suis mise à l'alimentaire pour combattre l'anémie.
Et trop, du coup, trop d'épinards.
Trop d'épinards, j'en ai mangé trop. Et le légume de chez moi, les pondous, moi je suis du Congo-Kinshasa, les pondous, ça a beaucoup de fer. Donc, c'est devenu mes aliments de base pendant un moment, mais là j'ai estompé un peu pour équilibrer.
Que vous ont conseillé les médecins par rapport à l'excès de fer?
Non, mais le médecin m'a demandé, parce que quand il a fait ses examens et qu'il a vu ça, il a dit, mais madame, comment vous avez fait pour avoir cet excès? J'ai expliqué ce que je mangeais et il m'a juste dit, vous pouvez un peu réguler le nombre de fois que vous consommez tout ce qui est riche en fer. Allez voir dans votre régime, vous m'avez cité le feuille de manioc et puis les épinards, mais allez voir un peu tout ce que vous avez consommé qui est riche en fer et essayez de moins manger cela, de moins consommer. Vous allez retrouver la forme parce que les excès vont donner peut-être des maux de tête, des migraines, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je fais.
Et la viande, est-ce que vous mangez beaucoup de viande?
Ah, moi, je suis pro-viande rouge.
Ouais, moi aussi, j'aime la viande rouge. J'aime beaucoup ça. Surtout la viande de bœuf.
Oh oui, elle est bien bonne, la viande rouge.
Et il y a du fer dedans.
Oui, beaucoup de fer, beaucoup. Et moi, je ne peux pas passer une semaine sans manger deux, trois fois la viande.
Ouais, c'est ça.
La viande rouge?
Oui.
C'est peut-être ça aussi qui donne l'excès de fer.
Mais oui, il y a tout ça. C'est comme ça que le médecin m'a demandé de revoir tout ce qui est riche en fer et que je puisse éliminer. Il m'a dit de réduire la viande rouge aussi. Mais moi, comme je suis pro-viande, c'était très difficile de passer au poisson.
Pour l'arrêter, c'est compliqué. Hein? Tu peux le diminuer, mais tu ne peux pas l'arrêter.
Arrêter, c'est difficile. On réduit, mais on n'arrête pas.
Donc maintenant, c'est quoi? Une fois par semaine?
Je ne vous dirai pas une fois par semaine, parce que là, non, je mentirais.
Donc c'est resté un peu la même consommation qu'avant?
Je pense que oui.
Impression recueillie par Charlie Dupio, professeur Awa Oumar Touré, pas assez de fer, trop de fer. Du côté des épinards, j'avais entendu dire que c'était un petit peu une fausse croyance, tout ce fer dans les épinards à cause de Popeye. Qu'est-ce qu'il en est en réalité, Popeye le dessin animé, hein?
C'est la réalité, les épinards sont riches en fer.
Ah.
Et chez nous, on a des épinards, c'est vrai, mais on a aussi le nébédaï au Sénégal, qui est très riche en fer.
Là aussi, des feuilles ?
C'est des feuilles.
Oui, des feuilles.
C'est des feuilles.
La viande rouge également ?
Ah oui, 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 la viande rouge, c'est le top. Il contient en fait de la myoglobine qui est riche en fer. Mm. C'est le top, c'est le numéro un. C'est d'abord la viande rouge, les charcuteries, avant les végétaux. Hein. Mm.
Et ça veut dire que quand on a une femme qui vient et qui a une carence en fer, on va éventuellement lui proposer une supplémentation en sirop ou en cachet, mais il y aura aussi des conseils du côté de son alimentation.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense qu'une grossesse, ça se prépare, parce que nous venons souvent avec des retards, nous les femmes, des retards en termes de potentiel en fer. Et donc, il faut agir sur l'alimentation d'abord avant de passer à la systématisation de cette supplémentation.
Professeur Awa Omar Touré, on part tout de suite pour le Tchad.
RFI N'Djamena, 100.2 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Khadija. Khadija, bonjour.
Bonjour.
Alors Khadija, vous avez 25 ans. Chez vous, c'est suite à quels symptômes qu'une anémie a été diagnostiquée ?
Ça commençait d'abord par des épitaxies, des céphalées. Ensuite, ça s'est venu des palpitations à tout moment, quand j'ai fait des efforts, ce qui m'a poussé à faire d'aller chez le médecin généraliste et faire des examens, auxquels ils m'ont demandé de faire l'aménération. Formule sanguine dont le taux d'hémoglobine était à 5 grammes par décilitre.
Donc, vous aviez des palpitations, des symptômes, vous êtes allé faire une numération qui était très très faible, vous avez été transfusée, ça veut dire qu'on vous a diagnostiqué une anémie sévère, c'est ça ?
Oui, c'était une anémie sévère, auquel il est très important de faire la transfusion.
Ouais.
Donc, j'ai été transfusée.
Est-ce qu'on vous a donné des conseils sur votre alimentation ?
Oui, bien sûr. Ils m'ont demandé de prendre des betteraves, des viandes.
Aujourd'hui, il est à combien votre taux d'hémoglobine ?
À 9,7 grammes par décilitre.
Donc, il a presque doublé par rapport à votre précédent contrôle. Et vous venez, je crois, de consulter un spécialiste. Vous avez d'autres examens prévus ?
Oui, bien sûr. Ce matin, j'étais partie voir un médecin interniste.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Après des examens cliniques, paracliniques, il a diagnostiqué que c'était plutôt une maladie, que l'anémie serait due à une maladie auto-immune. Et je devais faire d'autres examens immunologiques pour être bien traité.
Ça veut dire maladie auto-immune. Il vous a donné le nom d'une maladie qui pourrait expliquer cette anémie ?
Oui, bien sûr. Ça dit probablement, ça peut être le lupus parce que j'ai des chutes de cheveux. De courbatures à chaque moment.
D'accord, donc vous avez toute une série de symptômes associés, ce qui pourrait donc, ce n'est pas encore confirmé, mais être un lupus. Khadija, on va écouter votre question, s'il vous plaît, je vous en prie.
Ma question est de savoir quelles sont les complications à long terme.
De l'anémie que vous avez eue ou aujourd'hui, comme ça va mieux, vous êtes beaucoup moins inquiète ?
Non, maintenant je suis moins inquiète parce que au moins je sais où. Est-ce que je me situe ?
D'accord.
Déjà, oui.
Donc vous êtes, on ne va pas dire rassurée par le diagnostic, mais au moins vous savez où vous en êtes. C'est ça déjà, Khadija. Professeur Awa Omar Touré, tout à l'heure on parlait des causes de l'anémie. Il y avait donc des maladies, vous aviez cité les maladies auto-immunes, et ce pourrait donc être cela pour notre auditrice du Tchad, Khadija.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a eu un épisode d'épistaxis, comme elle a dit. Ça a pu créer et aggraver une anémie sous-jacente qui existait. Et il fallait se remonter la pente avec une transfusion et une petite supplémentation. Mais la supplémentation ne sera pas le traitement de fond de cette anémie. Il faut traiter la maladie auto-immune. Et c'est rassurant d'avoir un diagnostic parce qu'une fois qu'on aura traité la cause, l'anémie va s'estomper toute seule.
Et donc, Khadija, vous allez revoir votre spécialiste, c'est ça ?
Dans 3 jours.
Dans 3 jours, d'accord.
Allez.
Et avec lui, vous allez parler d'une prise en charge, etc.
D'une prise en charge thérapeutique à long terme et à court terme également.
Donc, vous allez être prise en charge suite à la prochaine consultation. On vous remercie infiniment, Khadija, pour votre appel. Et puis, on vous remercie aussi pour votre choix musical que vous nous faites partager. Une chanson interprétée par Aya Nakamura et Stormzy, plus jamais, professeur Awa Omar Touré. On va se retrouver juste après pour donner la parole à d'autres auditrices pour suivre notre échange dans Priorité Santé, questions de femmes sur RFI.
J'ai donné mon cœur, j'en reviendrai plus jamais, jamais, jamais.
Oh non, non, non.
Je te fais l'accepter. Ça fait mal, mais je tourne la page. Je suis tentée, je dois l'avouer. Je pensais à nous tous les jours. C'est logique, y'a aucun retour. Tout ça c'est relou, yeah. Parfois, je suis dans l'excès. Ma folie me joue des tours. Je sais même pas pourquoi. Je voulais pas y croire. C'était notre histoire. On est devenus si distants et c'est le
J'ai donné mystère. Mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, ça m'arrivera plus jamais. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, je le referai plus jamais.
Lately, I've been holding on to things you say. Heartbreak's a dark place. Shouldn't have to be this. If I give you space, someone's gonna take my place. All because of my mistakes. Girl, I gotta say this, don't think I
J'ai
can take
cœur,
this.
J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, ça m'arrivera plus jamais. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. J'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Ouais, j'ai déjà donné, je le referai plus jamais. Je me prends plus la tête. En vrai, c'était le destin. T'étais mon moteur, t'es plus à la hauteur. Booster, t'es plus à la hauteur. Booster.
Priorité santé sur RFI, nous parlons aujourd'hui de l'anémie dans notre émission Questions de femmes, carence en fer. Paludisme, règles abondantes, drépanocytose, diagnostic et prise en charge de l'anémie au féminin, toujours en compagnie de la professeure Awa Oumar Touré, hématologue au laboratoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que l'on retrouve dans les studios de RFI en full day et mendicant. Et c'est du Burkina Faso qu'Aïcha nous a appelé sur WhatsApp au 33 761 18 46 41. Elle a laissé ce message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute, sa voix a été modifiée pour préserver son anonymat.
Bonjour Priorité Santé, je m'appelle Aïcha, j'ai 28 ans. Je participe à cette émission parce que je suis beaucoup intéressée par le sujet. En effet, en décembre 2024, j'ai eu à perdre un de mes camarades, ce qui m'a beaucoup touchée. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Suite à cela, je me suis sentie très faible, très fatiguée. Je passais toutes mes journées au lit. J'ai décidé de me rendre à l'hôpital pour plus d'examens. Suite à ces examens, il s'avérait que j'étais anémie. Alors, j'ai commencé à prendre un traitement, notamment Totema, que je prenais 2 fois par jour, sur 10 jours, parce que c'était très grave à l'époque. Ensuite, 1 fois par jour sur 20 jours. Mais depuis lors, juste après mes périodes, je me sens très faible. Je suis obligée de continuer à prendre ce médicament. Alors, j'aimerais savoir, est-ce le fait de ne pas m'alimenter ou de changer d'habitude alimentaire est l'une des causes de l'anémie? Est-ce que les règles peuvent aggraver l'anémie? Et quand est-ce que je dois continuer à prendre ce médicament, d'autant plus que je continue de le faire jusqu'à présent?
Professeur Awa Oumar Touré, insomnie, perte d'appétit, fatigue après un deuil très douloureux. Aïcha a été traitée pour son anémie et elle aimerait avoir des explications, notamment savoir si les règles aggravent l'anémie. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Aïcha est partie sur une base de carence d'apport, d'une grosse carence d'apport. Elle ne s'alimentait plus correctement en tout cas, ce qui fait qu'elle avait peu de réserves en fer ou pas du tout. Quand on perd comme ça ses réserves en fer et qu'en plus il vient s'ajouter les pertes, ça aggrave les difficultés de régénération des globules rouges et ça aggraverait l'anémie. Son gros problème, c'est un problème d'alimentation équilibrée pour pouvoir aider le traitement à être efficace. La durée du traitement, ça peut aller jusqu'à 6 mois en fonction du point de départ. C'est-à-dire, il faut des analyses pour savoir où est-ce qu'on en est dans ces réserves. Tant que ces réserves ne sont pas constituées, elle n'arrêtera pas le traitement.
Ça veut dire, ce que vous nous avez expliqué, c'est très intéressant. Ce n'est pas la supplémentation en fer qui va donner tout le fer, mais il faut bien que ce soit avec une alimentation équilibrée.
Tout à fait.
Et elle saura quand elle doit arrêter ce traitement en fonction des résultats de ses examens sanguins.
Voilà, c'est ça. C'est l'élément crucial. Il faut toujours contrôler qu'on a reconstitué ses réserves, sinon c'est un cercle vicieux.
Généralement, quand un médecin prescrit une supplémentation en fer, dans un premier temps, c'est pour une durée de combien de temps ?
Au bout d'un mois, c'est le minimum, surtout avec sa situation. On contrôle, parce qu'il y a des étapes dans l'anémie. Ces étapes, il faut les refaire dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on perd ses réserves, ensuite on a les globules rouges qui diminuent en taille, ensuite c'est le taux d'hémoglobine. Donc, il faut les vérifier dans le sens inverse. Il faut vérifier que le taux d'hémoglobine, au bout d'un mois, se rétablit. Il faut ensuite vérifier que les constantes se remettent en place, et ça peut prendre 6 mois.
D'accord, au moins 6 mois pour la réponse. Alors, on peut aussi parler de ce retard de diagnostic pour une autre auditrice, c'est Anissa du Sénégal. Elle explique dans un message sur WhatsApp que pendant 3 ans, aucun médecin, même un spécialiste, n'a trouvé l'origine de son anémie. À côté d'une malabsorption de fer au niveau de l'intestin grêle, c'est son gynécologue qui a prescrit une analyse de sel. Verdict, c'était des amibes. Anissa explique qu'en moins d'un mois, en fait, elle en a eu fini avec l'anémie quand cette amibiase a été traitée. Et elle dit aussi qu'elle a été déçue par l'approche de certains spécialistes qui n'ont pas exploré cette piste, qui lui ont prescrit plein de traitements, alors qu'au bout du compte, elle avait juste besoin d'un antibiotique. Professeur Aouaoumar Touré, quel est le lien entre cette infection parasitaire et l'anémie ?
En fait, l'amibiase intestinale, certainement ce qu'elle doit faire, parce que l'amibiase hépatique est plus profonde, aurait été plus symptomatique, je pense qu'elle aurait réagi plus tôt. L'amibiase intestinale peut être chronique. Cette amibiase intestinale va léser la paroi intestinale, entraîner de petits saignements et accélérer la perte en fer, d'autant qu'en fait, il y a des stocks de fer sur les villosités de nos parois intestinales. Donc, il y a 2 éléments qui font qu'on les perd par petits bouts. Effectivement, il a raison. Je disais que le souci du fer, c'est qu'il faut voir les entrées et les sorties, en particulier les selles, qui, s'il n'y avait pas de micro-saignements, ça aurait permis de découvrir les œufs d'amibes.
Ça veut dire l'important, c'est bien d'en rechercher la cause.
Il faut toujours traiter la cause, sinon on prend des traitements à vie qui ne résolvent pas, qui sont parfois simplement symptomatiques.
Et ça ne résout pas le problème. On part tout de suite pour l'océan Indien.
RFI à Moroni. 103 FM.
Et en ligne des Comores, on retrouve maintenant Mariama. Mariama, bonjour.
Bonjour.
Alors Mariama, vous avez 37 ans, vous êtes sage-femme de profession et vous avez souhaité témoigner sur la fréquence des cas d'anémie que vous pouvez observer en consultation. Alors quels sont les signes que présentent les femmes enceintes anémiées ?
Les femmes enceintes présentent des signes comme la pâleur de muqueuse. Parfois, il y a des souffles, aussi l'asthénie. À partir de ces signes-là aussi, si je l'interroge, il va me dire aussi qu'il n'arrive même pas à manger très bien, ça m'oriente pour passer à l'anémie.
Très grosse fatigue, difficulté à s'alimenter. Qu'est-ce que vous recommandez dans ces cas-là ?
Je demande l'analyse, surtout la NFS en premier temps, si c'est l'anémie, pour confirmer le diagnostic. Mais avant tout, je mets la supplémentation en fer.
La supplémentation en fer, et vos patientes, elles sont plutôt d'accord pour les prendre, ces comprimés ?
Si je les prescris, ils acceptent, mais en regardant, la pathologie ne sont pas corrigées alors qu'il est sous le fer.
Donc ça veut dire qu'au bout du compte, elles ne les prennent pas, les cachets ?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ?
Dans ces cas-là, je l'explique encore l'importance, mais si je fais un contrôle, je trouve encore qu'il y a encore le taux d'hémoglobine qui est bas, jusqu'à ce que parfois je demande la transfusion.
Et aux Comores, quand vous leur préconisez de prendre du fer, est-ce que c'est pris en charge ou est-ce que c'est à elles de payer à ces femmes enceintes ?
Avant, c'était pris en charge, mais actuellement, c'est à elles qui doit y aller acheter.
Est-ce que ça peut expliquer aussi le fait qu'elles ne puissent plus payer ces supplémentations en fer ?
Non, parfois, la plupart, ils achètent, mais ouais. Je ne sais pas le problème.
Vous ne connaissez pas le problème. Peut-être qu'il faudrait faire des groupes de parole, des causeries avec les femmes pour qu'elles essayent d'expliquer pourquoi elles n'arrivent pas. Peut-être qu'il y a des fausses croyances qui circulent sur le fer. On ne sait jamais, ça peut arriver aussi. Mariama, en tout cas, je sais que vous avez des questions à poser à notre invitée.
Moi, je voulais demander qu'on me donne plus de conseils et surtout alimentaires, hygiéniques, pour que je puisse corriger les anémies chez les femmes enceintes.
Eh bien, c'est les soignantes qui parlent aux soignantes dans Priorité Santé. Professeur Awa Oumar Touré, c'est vrai que c'est important de travailler avec tous les personnels de santé pour se donner des trucs pour mieux prendre en charge les femmes.
Je comprends très bien la situation de la collègue sage-femme, parce que pour ma propre personne, je ne prenais pas forcément mon fer. Hein. Même si les recommandations de l'OMS, c'est de les prendre pendant toute la grossesse, au moins pendant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse. Et ce qui fait que les femmes aussi, à une mauvaise compliance, ne les prennent pas, c'est la perversion du goût chez la femme enceinte, qui font que quand elles prennent le fer, elles ont envie de vomir, parfois les effets secondaires les gênent, puisqu'il y a une forte constipation chez la femme enceinte. Si on donne du fer qui est lourdement chargé en fer, ça peut créer une constipation. Ce que je vous conseillerais, c'est de prendre les choses en main dès le début de la grossesse, parce qu'elles partent avec une carence souvent. Et ça, selon la gravité, vous savez comment agir. Et il faut commencer par l'alimentation. Cette alimentation chez la femme enceinte, on a plusieurs solutions. On peut faire cuire la viande, je ne sais pas quel est le niveau socio-économique, la viande de différentes façons. Et ensuite, nous avons nos herbes en Afrique. Je ne sais pas ce qu'il y a aux Comores. Il y a l'épinard, il y a les lentilles, il y a le nebedaï chez nous. Et il y a toute cette alimentation qui, bien équilibrée et bien assaisonnée comme le savent faire nos femmes, peut prévenir beaucoup, beaucoup de risques de carence profonde. En plus de la supplémentation, ça ne coûte pas très cher avec les initiatives qu'il y a en Afrique de plus en plus. Et avec les génériques, ça ne coûte pas très cher, mais il faut agir sur l'alimentation. Souvent, les deux sont combinés, une intolérance au fer et des vomissements qui font que les femmes ne prennent pas souvent, ne sont pas souvent au point sur le plan de l'hémoglobine. C'est l'alimentation.
Professeur Awa Oumar Touré, le moringa, c'est quelque chose qui est préconisé pour enrichir l'alimentation en fer ?
J'arrête pas de dire nebedaï, c'est vrai. La nuance scientifique, c'est moringa.
C'est pour être international, hein. C'est parce qu'on parle pas forcément tous les mêmes langues. Mais le moringa, donc vous, c'est en wolof le terme?
Oui, c'est en wolof, désolée.
Mais allez-y, il n'y a pas de souci, on parle toutes les langues sur RFI. Vous aussi, Mariama, il y a des choses dans l'alimentation spécifique des Comores, des herbes ou des viandes qui sont préconisées pour enrichir l'alimentation en fer?
Comme elle vient de dire, le moringa et même monsieur Comoriana.
Super.
Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi conseiller, ajouter dans les plats, dans les ragoûts, quand on fait cuire la cuisine à la maison. Au niveau justement des ressources des femmes, acheter de la viande rouge, peut-être que c'est un peu compliqué en ce moment.
La viande rouge, je ne pense pas que les femmes vont aimer à manger ça.
Au niveau alimentaire, si vous avez bien écouté les femmes qui ont parlé précédemment, c'est-à-dire il faut aider l'absorption du fer. Comme elles en prennent peu, elles refusent de prendre les médicaments. Quand elles prennent leur alimentation, comme vous dites qu'elles mangent la viande, qu'il y a le moringa, qu'elles aient associé de l'acide citrique, quelque chose d'acide, du citron, du jus d'orange, du bissap qui existe chez nous, c'est les fleurs d'oseille, et ça favorise l'absorption du fer. Par contre, tout ce qu'elles prendront en annexe du fait de la perversion du goût, que sont l'argile chez nous, et tout ça, ça s'oppose à l'absorption du fer. Donc il faut que le peu qu'elles prennent, que ce soit efficace et bien absorbé. Et c'est rien de tel que la vitamine C.
La vitamine C, un jus d'orange, et on évite aussi le thé vert, hein, je crois, pour l'absorption
du fer.
Tout
à fait, c'est un chélateur, oui. Le thé, les argiles qu'elles prennent chez nous.
Et l'argile, justement, au niveau local, on appelle ça comment, cette argile qui est soi-disant anti-hémétique ?
Le kéo.
Oui, donc ça, on évite absolument. Hein.
Absolument à éviter.
Oui, ça peut même donner des conséquences graves pour le bébé à naître. Oui. On vous remercie beaucoup, Mariama. Très, très bonne journée à vous. On va prendre une autre auditrice en ligne. Chez vous, à Dakar, c'est Ndoya qu'on retrouve. Ndoya, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 32 ans, Doya, vous aussi une anémie chronique. Et en préparant l'émission, vous avez expliqué que ça se voit même sur votre visage. De quelle manière?
En fait, je deviens toute rouge.
Ouais.
Je dirais même pas rouge, mais je tends vers le blanc.
Ouais.
Ça veut dire... Je voulais faire un petit coucou au professeur Touré. Moi, je suis un produit de la faculté des sciences et techniques. Département génétique et biologie animale, génétique et population. J'ai eu à la rencontrer, en fait.
Eh ben, rencontre de l'élève à la professeure. Alors, vous avez dit que vous devenez pâle à cause de cette anémie. Depuis combien de temps on vous a diagnostiqué de l'anémie?
Depuis 2018. Non, avant le bac, même vers 2011.
Ouais.
C'est quand j'ai été orientée à la faculté des sciences. C'était compliqué avec les horaires. Je n'arrivais pas à prendre le repas, le déjeuner, le petit déjeuner et même le souper. C'était pas très compliqué. Donc là, j'ai eu une alimentation vraiment pas du tout enrichissante pour le corps. Et j'ai commencé à avoir certains symptômes.
Quoi,
carrément.
Quoi comme symptômes? Est-ce que vous pouvez nous décrire ça?
J'avais la paume des mains très très blanche. Même on me disait ça, même les albinos ne sont pas comme ça. Je m'essoufflais aussi de temps en temps aussi.
Et donc, vous avez pris une supplémentation. Ensuite, vous êtes devenue maman. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, au fil des années à l'université, j'ai eu... ce qui a fait que, avant que je me marie, pour les examens prénuptiaux, là, j'ai eu à les faire. Donc, le médecin qui me suivait a su que j'avais une anémie vraiment chronique, très très bien, parce que j'avais un taux, je pense, qui tournait aux environs de 5 ou 6. Lui-même, il se posait la question, comment je faisais pour mes activités et tout. Donc, il a commencé il m'a mis sous traitement. Je ne me souviens plus du nom du médicament, mais il m'a dit que bon, il faut que je me revoie, parce que ça, c'est pas du tout, pas tout intéressant pour moi, dans le but où je voulais être maman. Quand j'avais l'intention de le devenir, donc là, il m'a dit, il faut qu'on revoie ton alimentation, le médicament que tu vas prendre. Et quand on a encore refait les examens, les résultats n'étaient pas du tout encourageants. Donc, on m'a donné les piqûres là, j'ai oublié le nom. Je pense, le professeur va savoir, ce sont des piqûres pour les gens qui sont animés.
D'accord. Je vous coupe un petit peu parce qu'on va aller droit au but, Doya, excusez-moi. Vous avez été anémiée, il y a eu les grossesses. Après, vous avez eu un autre problème de santé.
Oui, j'ai eu la tuberculose lors d'une mission vers Kaffrine.
Ouais.
Et là, j'ai perdu un poumon.
D'accord.
Et ça a aggravé. C'est pourquoi même j'avais envie de poser la question au professeur.
Allez-y.
Si l'anémie aggrave les problèmes respiratoires pour une personne qui vit qu'avec un seul poumon, ou bien l'inverse, les problèmes respiratoires favorisent en fait, ou bien rend plus compliqué la vie d'une personne anémique.
On va demander ça au professeur. Une question. Vous avez rendez-vous bientôt avec un hématologue ou un spécialiste?
Oui, le rendez-vous ça a été calé depuis, je pense, un an. Je n'avais pas vraiment le temps avec la vie de maman, la vie pro.
Ouais.
Mais là, je pense qu'il faut...
Mais Doya, il faut penser à vous. Vous avez des bébés, vous avez une tuberculose, vous avez de l'anémie. Travail ou pas travail, là, il faut penser à vous quand même.
Oui, mais la tuberculose, je dis, il y a 4 ans, je pense.
Bah oui, mais vous êtes encore essoufflée, vous avez des questions. Il faut, oui, faut prendre soin de vous quand même.
Exactement, je ne manquerai pas.
Ouais. Professeur Awa Oumar Touré, je n'ai pas fait la morale à notre auditrice de Dakar, bien sûr, mais moi j'ai envie qu'elle aille loin, surtout qu'elle a une super carrière, etc. L'anémie chez Ndoya, grossesse, tuberculose, essoufflement chronique. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage?
Bonjour Noéa déjà. Merci Caroline d'avoir anticipé sur les conseils. Ça allait être ma principale conseil, c'est lever le pied et d'essayer de gérer cette anémie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, votre essoufflement et votre fatigue, c'est lié simplement à un défaut en oxygène. Et pour compenser, le poumon se met à augmenter sa fréquence. Et cette augmentation de fréquence, cela veut dire qu'il faut un poumon qui soit capable de donner. Et vous avez perdu, comme vous m'avez dit, un de vos poumons. Donc, il faut faciliter la vie à votre poumon, ne pas l'éreinter, pour qu'il ne soit pas obligé de produire le maximum d'oxygène parce que vous n'en disposez pas dans votre sang. Donc, c'est le poumon qu'il faut préserver. Et en préservant vos poumons, vous allez préserver l'ensemble de vos organes en leur donnant assez d'oxygène. Donc, il faut agir sur l'anémie. C'est sur cet élément-là que nous pouvons agir maintenant. Et agir sur l'anémie, c'est traiter l'anémie. Et traiter l'anémie, ce n'est pas one shot. C'est le traiter, le suivre, faire les examens de surveillance et vérifier que vous avez stabilisé votre taux d'hémoglobine. Le poumon que vous avez perdu n'aggrave pas l'anémie. C'est l'épisode de tuberculose qui est maintenant guéri, qui aurait pu l'aggraver. Mais ça ne l'aggrave pas l'anémie. Maintenant, il faut mener une vie plus ou moins saine, relever les pieds et aider votre organisme à vous gérer pour que vous puissiez aller loin dans votre carrière.
C'est très important. Ndoya, prenez soin de vous. Merci pour votre appel. On part pour le Togo.
RFI à Lomé.
Néfissatou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 31 ans. À quelle occasion est-ce que vous avez découvert que vous aviez une carence de fer?
Il y a 6 ans, je ne pouvais pas travailler. J'avais tout le temps de la fatigue. À moindre coût de travail, je suis épuisée. Donc, j'ai commencé par en parler à une connaissance et qui m'a proposé d'aller me faire consulter. À l'hôpital, on m'a fait une analyse. On m'a dit que je manque de fer.
Qu'est-ce qui vous a été prescrit alors? Vous avez eu des médicaments, une ordonnance?
On m'a mis sous EPMA fer.
Est-ce que vous avez vu des améliorations depuis?
Honnêtement, oui.
Ça fait 4 ans donc que vous prenez ce médicament, Néfissatou?
Ça fait 6 ans.
6 ans. Et à côté de ça, est-ce que vous avez changé des choses dans votre alimentation?
Ah oui, carrément. J'ai changé d'alimentation et ça m'a énormément aidée. Je mangeais des choses qu'il ne fallait pas. Et depuis que j'ai changé d'alimentation, je vais super mieux.
Vous avez déjà essayé d'arrêter le sirop? Qu'est-ce qui s'est passé?
Honnêtement, quand j'arrête le sirop, je commence par sentir un peu de vertige. Je ne suis pas totalement en forme.
Est-ce que le médecin a cherché les causes de votre anémie?
Les causes, non. Il m'a juste donné des conseils et dirigé vers des alimentations.
Donc, on a bien une question qu'on pose depuis le début de cette émission. Professeur Awa Oumar Touré, Néfissatou, elle prend son sirop, elle respecte un régime. Mais malgré tout, dès qu'elle arrête la supplémentation, elle se sent mal. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Néfissatou, on ne peut pas prendre un traitement au long cours comme ça sans savoir pourquoi et vers où on va. Il faut absolument, absolument rechercher la cause de cette anémie. Absolument rechercher la cause. La cause peut être simple comme elle peut être compliquée. Donc, il faut absolument motiver votre médecin à rechercher cette cause. C'est depuis la bouche par où rentrent nos aliments jusqu'à leur sortie. Tout ce tractus digestif doit être contrôlé.
Ça veut dire que vous auriez une patiente comme Néfissatou. C'est quoi les examens que vous lui conseilleriez en premier?
Donc, je vérifie déjà l'état de sa ferritinémie pour voir si elle n'en prend pas trop et qu'elle ne commence pas à faire une petite surcharge. Mmh. Et ensuite, les examens, le minimum à faire, c'est de faire la fibroscopie. La fibroscopie digestive haute, parce que c'est la première cause de carence en fer chez l'homme comme chez la femme. Chez la femme, en plus, vous avez les examens gynécologiques. Il faut aller vers un gynécologue pour voir s'il n'y a pas de souci de saignement à minima au niveau du système gynécologique. Et enfin, on va aller vers le bas et voir le tractus digestif bas par une coloscopie. Une coloscopie, une rectoscopie, les deux vont ensemble pour voir si c'est le tractus digestif bas qui saigne à petit feu.
Dans ce cas-là, c'est voir un gastro-entérologue ou un généraliste?
Un généraliste, parce que sinon elle va avoir beaucoup de spécialistes.
Ouais.
Elle va voir un généraliste ou un hématologue qui lui permet, qui lui fait les examens. Et une fois qu'on aura découvert l'étiologie, en ce moment, peut-être qu'il faudra l'orienter vers un gastro, vers un gynéco, etc.
D'accord. D'abord, en premier recours, donc, le généraliste. Voilà pour ces conseils. On vous remercie beaucoup, Nefissa Tou, pour votre appel. Professeur Awa Oumar Touré, un grand merci à vous aussi pour votre participation. Toutes ces réponses et conseils aux auditrices de l'émission. À très bientôt sur RFI.
Merci beaucoup, Caroline. Ce fut un plaisir.
Plaisir partagé. Avant de se dire tout à fait au revoir, la voix de Victor Solf avec Que le cœur dans Priorité Santé.
J'ai affronté mes peurs.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talimpo, à Dakar, Alassane Bireba et ici à Paris, Lorraine Nemoza et Laurent Philippot. Lundi, nous allons parler des premiers secours, gestes essentiels pour agir dans l'urgence. Brûlure, coupure, chute, savoir réagir, protéger, alerter, secourir. On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé. Téléchargez MySounou pour souscrire ou gérer vos assurances et MySounou Banque pour votre compte bancaire.